Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Bouffées de chaleur, coups de fatigue, troubles de l'humeur, prise de poids, ce sont quelques-uns des effets associés dans les esprits et souvent dans la réalité à la ménopause. Ce moment où le cycle ovarien s'arrête, l'absence de règles qui se prolonge au-delà d'une année, mais chaque parcours de femme est singulier, loin des préjugés, des caricatures associées à cette période qui, en moyenne, va de 49 à 55 ans. L'altération de la qualité de la vie des femmes n'est pas systématique. Il existe des prises en charge pour atténuer un certain nombre de conséquences de la ménopause et des conseils pour limiter certaines pathologies comme l'ostéoporose ou les maladies cardiovasculaires dont les risques augmentent avec l'âge. Information, prévention, traitement au centre de cette émission de Priorité Santé à l'occasion de la Journée mondiale de la ménopause. Avec nous en studio, professeur Anne Gompel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'unité d'endocrinologie gynécologique à l'hôpital Cochin à Paris. En deuxième partie de Priorité Santé, nous serons en ligne avec le professeur Binta Diallo, gynécologue obstétricienne au CHU de Donka, Conakry en Guinée. Binta Diallo qui est aussi professeur de gynécologie obstétrique à l'université de Conakry. Pour conclure cette émission, comme chaque mercredi, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe nationale de judo. Et puis, bien sûr, notre numéro 1 pour témoigner et poser vos questions, c'est le 33 1 80 82 75 75. RFI. La ménopause est donc en fait l'arrêt définitif de l'activité ovarienne et des règles. Que beaucoup de gens confondent en fait, professeur Anne Gompel, avec la pré-ménopause, la période qui précède cet arrêt.
Oui, absolument. Avant la ménopause confirmée, c'est-à-dire l'arrêt des règles d'un an, on va revenir là-dessus, c'est peut-être un peu bête de laisser les femmes avec un arrêt de règles un an, pendant un an des bouffées de chaleur et tous les signes que vous avez évoqués. Donc nous, on les traite avec... Enfin, un moyen simple de faire le diagnostic de ménopause confirmée, c'est de leur donner... 10 jours de donner aux femmes qui n'ont plus de règles et une symptomatologie type ménopause et un âge correspondant à ménopause, 10 jours par mois de progestérone. Si avec ça, ce traitement-là, elles saignent encore, c'est-à-dire qu'elles sont en préménopause. Donc effectivement, en préménopause, la période préménopausique peut s'étaler sur plusieurs années, très variable d'une femme à l'autre, avec des signes que l'on attribue à la ménopause, mais qui peuvent la précéder, encore une fois, de plusieurs années avec une durée variable.
Alors, est-ce qu'il y a des examens, par exemple, un bilan sanguin?
Non, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien.
Le meilleur moyen de faire le diagnostic de ménopause confirmée, si les femmes ont un utérus, c'est de leur donner 10 jours de progestérone. Si elles saignent, c'est qu'elles ne sont pas ménopausées. Il faut qu'elles continuent à progestérone. En plus, ça calme les bouffées de chaleur. C'est un très bon traitement pour les troubles du sommeil. Et ça permet d'avoir des cycles réguliers et de prévenir les problèmes d'hémorragie éventuellement au niveau utérin, etc. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire. Nos agents hormonaux fluctuent, sont peu spécifiques. Donc ça peut s'élever plusieurs années avant la ménopause confirmée.
Ça veut dire toute une série d'effets bénéfiques et pas d'effets secondaires néfastes.
Après, il y a des patientes qui ne vont pas supporter un progestérone naturel, on donnera un progestatif. Enfin, après, c'est une histoire d'adaptation individuelle des traitements. Mais il y a des moyens, donc, dans cette période de préménopause, de calmer les symptômes. La sécheresse vaginale peut commencer bien avant la ménopause. Donc, ne pas hésiter à demander au médecin un traitement local. Il y a des traitements locaux qui n'ont aucune contre-indication, sauf chez les femmes qui ont un cancer du sein, qui prennent des inhibiteurs d'aromatase, mais c'est quand même pas toutes les femmes. J'étais quand même très surprise dans une mise au point pour l'Académie de médecine récente de me rendre compte que 5% seulement des femmes ménopausées prenaient un traitement local, alors que ça va améliorer la sécheresse vaginale, les rapports sexuels, les problèmes urogénitaux qui sont très prévalents, les urétrites, les infections, etc.
Pourquoi ? Parce qu'elles n'en parlent pas ou parce qu'on ne leur pose pas la question ?
Je pense qu'il y a les deux raisons. C'est-à-dire que d'une part, l'éducation des médecins est encore à faire, curieusement, et d'autre part, les patientes n'en parlent pas forcément. Il faut leur poser la question systématiquement lors de la consultation.
Ça veut dire qu'au moment où la femme aborde cet âge, dosage, il n'y a pas dans l'échange médecin-patient, par exemple, un exposé assez complet des effets qui peuvent arriver pour dire, voilà, si ça arrive, on vous conseille, on vous propose ça.
Absolument, oui, oui. Alors donc, moi, je suis membre du bureau d'une société, de la Société française de ménopause qui s'appelle le GEMVIE, groupe pour l'étude de la ménopause et du vieillissement, gemvie.org, le site sur lequel les femmes peuvent trouver en accès libre une fiche d'information sur la ménopause. Surtout qu'elles n'hésitent pas à le lire et en parler avec leur médecin.
On mettra le site sur notre propre site RFI.fr, comme ça vous pourrez vous y référer. On parle donc d'un ajustement hormonal. Cet ajustement, il prend combien de temps
très
en
variable,
général ?
Très variable. Il y a maintenant de très bonnes études longitudinales qui ont été faites en Australie et aux États-Unis qui montrent que c'est très variable d'une femme à l'autre. Ça peut durer 10 ans, ça peut durer plus longtemps, ça peut durer quelques mois, c'est très variable. Mais il semble, d'après les études américaines, que les femmes qui ont les bouffées de chaleur les plus sévères le plus tôt vont être celles chez qui ça va durer le plus longtemps. Donc il y a vraiment une nécessité de prendre en charge ces symptômes parce que ça altère considérablement la qualité de vie. Nous, on voit en consultation des femmes qui arrivent, elles n'en ont plus à cause de leurs symptômes de ménopause. Alors, les traitements, on va peut-être en parler, mais il y a le traitement hormonal de ménopause qui est vraiment le plus efficace sur les symptômes de ménopause. Le seul risque du traitement avec nos traitements à la française, c'est-à-dire le stradiol administré par la peau, soit sous forme de gel, soit sous forme de patch, combiné avec la progestérone naturel. Ce type de traitement à la française a moins de risques que les autres traitements internationaux avec les progestatifs de synthèse et les comprimés, l'oestradiol par voie orale, les oestrogènes sous forme de comprimés. Donc par la peau combinée avec la progestérone, le seul risque à long terme est un petit surrisque de cancer du sein, mais qui est moindre qu'avec les autres traitements. Donc après, c'est au médecin de voir avec la patiente d'adapter le traitement en fonction de ses risques. Il y a des femmes qui ont des hauts risques de cancer du sein, et ça, on sera plus prudent peut-être, et on traitera moins longtemps, parce qu'il y a un effet durée sur l'augmentation du risque de cancer du sein. Mais avec nos traitements à la française, il n'y a pas de risque thromboembolique, il n'y a pas de risque d'accident vasculaire cérébral et il y a une efficacité qui est équivalente avec celle des autres traitements.
Alors si vous dites nos traitements à la française, c'est parce qu'on a entendu dans les années 2000 parler d'effets secondaires très graves, mais là c'est parce que c'était d'autres traitements qui étaient employés, en particulier aux États-Unis.
Alors c'était des études qu'on appelle randomisées, où on tire au sort entre le traitement actif et le placebo américain avec les produits américains. Ils avaient inclus dans ces études, pour pouvoir les suivre pendant longtemps, des femmes qui avaient en moyenne 63 ans et des facteurs 30% étaient obèses. Et je vous signalerai que ces fameuses études Women Health Initiative, ils ont republié très régulièrement depuis 2002, puisque c'est sorti à l'été 2002. Ils ont republié très récemment et ils viennent de sortir un article pour montrer qu'en fait la mortalité est plus faible chez les femmes de 50 à 60 ans traitées par le traitement actif, même avec les traitements à l'américaine que nous, on n'utilise plus du tout en France depuis très longtemps et qui augmentent le risque thromboembolique, le risque d'accident vasculaire cérébral, etc. Donc, c'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'on a abandonné le traitement de ménopause à cause de ces publications et finalement, ils montrent que la mortalité est plus faible chez les femmes qui sont traitées que chez les femmes qui ne sont pas traitées.
Donc, un retour en arrière.
C'est hallucinant.
On a parlé de ces différents troubles qui aussi conduisent à une détérioration tout simplement de l'humeur.
Et de la qualité de vie.
Qualité de vie. Oui. Il y a aussi des organes qui sont touchés. Tout à l'heure, vous parliez notamment de la peau, de la sécheresse. Les os aussi peuvent être concernés.
Bien sûr, l'ostéoporose, oui.
C'est tout un tas de... C'est carrément tout un modèle physique qui est bouleversé.
Alors, l'ostéoporose ne concerne pas toutes les femmes. C'est génétiquement déterminé. Donc, il y a à peu près 30% des femmes qui vont avoir une ostéoporose après la ménopause. Et là, effectivement, le traitement de ménopause, entre 50 et 60 ans en tout cas, va permettre de combattre cette perte, cette déminéralisation et repousser plus tard... éventuellement les problèmes d'ostéoporose à un âge beaucoup plus tardif. Deuxièmement, sur le plan cardiovasculaire, alors c'est là où la WHI n'a pas confirmé ce qu'on avait comme notion avant.
Il faut que vous nous détailliez ce que c'est WHI. Donc
Women Health Initiative, les études randomisées américaines n'ont pas confirmé, à l'inverse des études observationnelles où les gens n'étaient pas tirés au sort, il pouvait y avoir des biais de sélection de patients en meilleure santé, ces études observationnelles montraient moins de risques cardiovasculaire chez les femmes traitées que chez les femmes non traitées. La WHI n'a pas confirmé ça, mais encore une fois, en reprenant les analyses en sous-groupe 50-59 ans, il n'y a pas d'augmentation de risque cardiovasculaire. Et il est vraisemblable qu'avec nos traitements à la française, encore une fois, et en sélectionnant des femmes qui n'ont pas de gros facteurs de risque cardiovasculaire au moment de la ménopause, on puisse quand même avoir un effet bénéfique sur ce plan-là. Et puis la qualité de vie est tellement meilleure pour les femmes qui ont des symptômes que ça ne se discute pas.
Il y a donc des traitements, on vient d'en parler, on va en reparler. Il y a aussi des habitudes de vie peut-être
oui,
à changer
non, ça,
à
c'est
cette
sûr.
Époque,
ça, c'est
à
très
cette
important.
Période-là.
Ça fait partie de la consultation de ménopause, de prendre en charge, d'évaluer les facteurs de risque des femmes et de leur donner une éducation en matière de santé. Donc maintenir un poids normal, parce que comme vous l'avez évoqué effectivement, c'est surtout en pré-ménopause qu'il va y avoir une prise de poids autour de 45 ans environ. Il y a des modifications du métabolisme vers une résistance à l'insuline, des modifications des lipides, la pression artérielle. Donc maintenir son poids normal, démarrer un exercice, une activité physique si on ne l'a pas fait jusque-là, c'est excessivement important.
Arrêt on en parlera d'ailleurs en deuxième partie d'émission.
Arrêt du tabac, bien évidemment, ça c'est à n'importe quel âge de la vie, c'est absolument impératif. Et puis aussi, on va évaluer la quantité de calcium que les femmes ingèrent, calcium alimentaire, dérivés laitiers, en leur expliquant que le fromage c'est pas terrible si elles ont des problèmes de poids, qu'en revanche, les dérivés laitiers type yaourt, fromage blanc, c'est bien mais il faut en manger pas mal, qu'il y a des eaux riches en calcium comme Épar, Contrex, Taliance, qui leur permettent d'amener 500 mg par jour, etc. Donc il y a une éducation à la santé, c'est très important effectivement.
Avec peut-être des changements alimentaires. Hein.
Ah c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous disent jusque-là, je pouvais manger n'importe quoi et puis maintenant, je grossis. Donc modification alimentaire, moins gras, moins sucré et exercice physique.
Alors si vous le voulez bien, professeur Anne Gompel, on va prendre tout de suite une auditrice en ligne. Cette auditrice, c'est Fatou. Bonjour Fatou.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Bonjour. Alors, vous êtes en ligne de Ouagadougou au Burkina Faso, on vous écoute.
Ok, alors moi mon plus gros problème est lié au bouffées de chaleur. J'ai 62 ans et je suis ménopausée depuis que j'ai 50 ans, ce qui fait 12 ans. Et je continue à avoir des bouffées de chaleur en post-ménopause. J'ai jamais voulu prendre de traitement de substitution aux hormones, sachant que ça nécessite un suivi sérieux que je ne pouvais pas avoir. J'ai donc opté pour les compléments alimentaires et j'en ai essayé pas mal, sans grand succès. Alors, ayant essayé plusieurs de ces produits, je me demande si j'ai pas une autre maladie qui pourrait provoquer ces bouffées de chaleur. On m'a fait faire des tests d'hyperthyroïdie qui sont normaux, ma thyroïde fonctionne normalement. Je voudrais donc aussi avoir vos conseils sur ce que je pourrais faire pour être soulagée, parce qu'en plus, je n'arrive pas à dormir. Compte tenu du fait que je sois réveillée presque toutes les heures, toutes les deux heures. Par
Est-ce que je peux vous demander votre poids et votre taille?
Oui, j'ai 1m56 et je pèse 75 kilos.
D'accord. Alors déjà, et je ne sais pas s'il y a du diabète dans votre famille, etc., mais vous êtes sûrement en surpoids. Donc déjà, maigrir, ça aide. Et s'il y a des problèmes de diabète dans votre famille, ça peut évoquer une insulino-résistance. Et donc ça majore les bouffées de chaleur. Est-ce que vous faites du sport, de l'activité physique?
Je marche.
Ouais, ça suffit pas. Je pense que déjà, alors bon, je suis pas sûre que vous ayez une autre maladie. Hein. Si les bouffées de chaleur ont démarré en période périménopausique, elles se sont pas aggravées. Et comme je le disais tout à l'heure, des femmes qui vont avoir des bouffées de chaleur de manière prolongée, voire toute leur vie malheureusement. Bon, démarrer un traitement de ménopause hormonal à distance de la ménopause, si on a des risques cardiovasculaires, ça peut être un petit peu ennuyeux. Donc moi, j'opterais plutôt pour des méthodes d'amélioration de votre état métabolique, hein, c'est donc faire du sport, maigrir, ça va déjà peut-être vous aider. Après, il faudrait quand même peut-être consulter un gynécologue et voir si vous pouvez pas prendre simplement de la progestérone naturelle qui pourrait vous aider pour les troubles du sommeil et les bouffées de chaleur sans risque cardiovasculaire associé. Mais il faut évaluer votre état métabolique. Je pense perdre du poids, faire du sport, ça devrait vous aider.
Fatou, merci beaucoup de votre appel. On va maintenant donner la parole à Aïcha. Bonjour Aïcha.
Bonjour.
Vous êtes en ligne de Guinée, hein, de Conakry, on vous écoute.
Oui, ok. Au fait, j'ai eu mes règles très tôt et oui. Je voudrais savoir si ça provoquerait pas une ménopause rapide. C'est-à-dire dès 40 ou 45 ans?
Non, ça peut être plutôt vers 49 ans que vers 51 ans, mais c'est pas forcément corrélé. Hein. Et donc, il n'y a pas un nombre d'années fixe entre l'âge des premières règles et l'âge à la ménopause. C'est variable d'une femme à l'autre. Mais c'est possible que ce soit plutôt 49 ans que 51 ans, mais c'est pas certain.
Ok, donc il n'y a pas un nombre d'années déterminé
non.
entre les règles et la ménopause, par
non.
exemple.
Si vous voulez, le nombre de follicules dans les ovaires qui va régler ce nombre d'années, enfin qui va déterminer ce nombre d'années où on va être réglé, est génétiquement déterminé. Donc c'est pas du tout un nombre fixe.
Ça veut dire, par exemple, question un petit peu naïve, si on demande à sa mère à quel âge elle a été ménopausée, c'est
oui,
une
ça,
meilleure
c'est
information.
Chose. Voilà, c'est ça. Ça peut être une bonne information. Mais c'est pas non plus parfaitement fiable. Mais c'est ce qu'on pose comme question en consultation, absolument.
En plus, un rapport familial. Merci beaucoup, Aïcha,
génétique,
pour,
oui.
pour votre appel. Une question importante hein, qui est posée indirectement par Aïcha sur certaines femmes, et on les comprend, qui peuvent s'inquiéter de la survenue de ménopause précoce.
Alors, ménopause précoce, dans le temps, enfin, jusqu'à très récemment, on utilisait ce terme-là pour les femmes qui étaient ménopausées avant 40 ans. Maintenant, les femmes ménopausées avant 40 ans, on utilise le terme d'insuffisance ovarienne prématurée. Et ça, c'est une situation pathologique où vraiment il faut utiliser des hormones, sauf contre-indication si on a eu un cancer du sein, mais bon, dans les autres cas, il faut vraiment se traiter parce que là, il y a des effets secondaires, enfin des retentissements cardiovasculaires et sur l'os majeurs, et la qualité de vie en plus. Après, maintenant, on emploie le mot ménopause précoce pour les femmes qui sont ménopausées entre l'âge de 40 et 45 ans. Bon, ça nécessite à ce moment-là une discussion avec son médecin pour savoir si effectivement le traitement hormonal n'est pas indiqué pour éviter les problèmes cardiovasculaires et ostéoporotiques, plus traiter les bouffées de chaleur et les troubles du sommeil, etc. Mais bon, c'est génétiquement déterminé ça habituellement, sauf s'il y a des maladies intercurrentes.
C'est par exemple le diabète qui peut avancer l'âge. Qu'est-ce qu'il y a comme autre maladie ou d'autres...
Ah non, c'est des causes auto-immunes, par exemple des maladies auto-immunes qui peuvent interférer, qui peuvent détruire les follicules, par exemple. Ou une chimiothérapie, une radiothérapie. Si on a été traité par chimiothérapie, on peut avoir une insuffisance ovarienne prématurée. Donc il y a pour les insuffisances ovariennes, il y a des causes génétiques, des causes auto-immunes et puis des causes iatrogènes, c'est-à-dire des traitements essentiellement chimiothérapie, radiothérapie. Ou chirurgicales, si on a eu des ablations de kystes progressives, il ne reste plus assez de follicules dans les ovaires. Et puis, la plupart du temps, on trouve pas. Enfin, c'est aussi idiopathique, génétiquement déterminé, mais on ne connaît pas tous les gènes actuellement, bien qu'on ait fait beaucoup de progrès. Voilà. Donc, en revanche, entre 40 et 50 ans, enfin, 40 et 45 ans, on parle de ménopause un peu précoce, et à ce moment-là, ça ne mérite quand même de discuter un traitement.
D'accord, on va prendre tout de suite une nouvelle ligne. Hein. C'est Estimée, une auditrice en ligne de Libreville au Gabon. Bonjour, Estimée.
Bonjour, docteur. Bonjour.
On vous écoute, estimé.
Oui, moi, ça fait 4 ans que je suis ménopausée. Je n'ai pas que des signes de ménopause. Les bouffées de chaleur, je ne les ai pas souvent. J'étais passée 2 mois, 3 mois. Et puis, un coup comme ça, je suis assise, je sens une bouffée de chaleur. Et puis, ça part. Bon, j'ai un peu plus de poids parce que je suis à 74 kilos. J'étais à 68 jusqu'à il n'y a pas longtemps. Là, je me suis pris encore ce matin 74 kilos. J'ai 1m65. Bon, j'ai d'autres soucis. J'ai souvent des migraines. Alors, je ne sais pas si les migraines sont dues à la ménopause ou bien à autre chose.
Est-ce qu'elles sont arrivées après la ménopause, vos migraines?
Oui, oui, je ne les avais pas avant.
Et vous êtes d'une famille de migraineuses?
Non. Pas que je sache, en fait.
Et avant la puberté, vous aviez pas de... Avant vos premières règles, vous aviez pas de migraines?
Avant la puberté, bon, j'avais des maux de tête, mais c'était dû, en fait, à la vie.
Donc, il y a des migraines, si vous voulez, qui apparaissent après la ménopause, qui sont liées à la baisse de sécrétion des œstrogènes. Donc, effectivement, à ce moment-là, la prise d'œstrogènes peut les améliorer. Donc, à voir avec votre médecin, voir si c'est vraiment des migraines... et pas des maux de tête, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Les migraines, c'est la moitié de la tête. Voir si vous avez des auras à ces migraines, ce qui contre-indiquerait éventuellement le traitement. Enfin, tout ça est à voir avec le médecin. Mais oui, c'est possible que des migraines réapparaissent après la ménopause alors qu'elles n'existaient pas ou peu en période d'activité génitale.
Estimé, vous avez une question?
Oui, une autre question, oui. En fait, j'ai des insomnies, en fait. Est-ce que ça aussi, c'est lié à la ménopause.
Bah, c'est apparu. Est-ce que c'est apparu à ce moment-là?
Estimé, on va vous répondre juste après le flash d'actualité. 3 minutes de pause pour l'information. Le rapport éventuel entre la ménopause et des troubles du sommeil. Vous restez avec nous, hein, professeur Anne Gompel. Les informations pour continuer à parler de la ménopause, atténuer ses effets et prévenir aussi les pathologies associées à cette période de la vie des femmes. Notre numéro 33 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et nous nous retrouvons pour cette seconde partie de Priorité santé consacrée à la ménopause. Toujours avec nous en studio le professeur Anne Gompel, responsable de l'unité d'endocrinologie gynécologique à l'hôpital Cochin à Paris. Alors tout à l'heure, avant le flash d'information, nous étions en ligne avec une auditrice. Cette auditrice est Estimée, qui est en ligne de Libreville au Gabon. Estimée, vous êtes toujours là avec nous ?
Je suis toujours là.
Alors vous nous parliez tout à l'heure de vos troubles du sommeil depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
C'est que vraiment, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je peux dormir un quart d'heure, 20 minutes, hein, je m'endors. Et puis après, quand je me réveille, je n'ai plus de sommeil. Je peux tourner dans le lit, vraiment pas de sommeil. Maintenant, je ne sais pas si je fais bien, quoi. J'ai été en pharmacie, un pharmacien m'a donné du Spinox. Il m'a demandé de prendre un comprimé le soir, mais je ne veux pas être vraiment dépendant de ces médicaments-là. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment dû à la ménopause ou pas.
Quand est-ce que ça a commencé, vos troubles du sommeil? Avant la ménopause ou pas?
Non, ça a commencé il y a 2 ans. Après la ménopause, en fait. Mais au début, ce n'était pas très accentué, quoi.
Alors, la ménopause peut s'associer à des troubles du sommeil. Après, dans les troubles du sommeil, il peut y avoir plusieurs facteurs. Le stress, est-ce que vous avez des ennuis familiaux? Est-ce que vous faites assez de sport? Est-ce que vous n'avez pas des soucis, etc.? Donc, il faut en discuter, là encore, je pense, avec votre médecin, pas que avec le pharmacien, parce qu'il y a différentes possibilités pour dormir un peu plus. Est-ce que vous faites du sport?
Oui, je faisais du sport, mais depuis un moment, je n'en fais pas. J'ai dit que je vais reprendre la marche,
Peut-être la natation. La natation, c'est bien pour le sommeil. Ça apaise.
Je ne sais pas nager. Malheureusement, je ne sais pas nager.
Ah, ben, il faut apprendre. Il n'est pas trop tard.
Je ne sais pas nager à ton temps.
Ben, pourquoi pas? Non, mais ça détend. Enfin, voilà. Il y a un certain nombre de comportements quotidiens qui peuvent aider à dormir un petit peu mieux. Après, oui, la ménopause peut aggraver ou le vieillissement peut aggraver les troubles du sommeil. C'est sûr que quand on est un peu plus âgé, on dort beaucoup moins bien que quand on a 20 ans. Et donc, il faut faire avec. Après, il y a un certain nombre de médicaments. Il n'y a pas que le Stilnox. Il y a des antihistaminiques qui peuvent aider. Il y a des produits homéopathiques en pharmacie ou à base de plantes qui sont pas mal, etc. Donc, il faut peut-être en parler avec votre médecin.
D'accord. J'ai une autre question. Parfois, j'ai des crampes. Est-ce que vraiment tout ceci qui vient, c'est vraiment dû à la ménopause?
Non, c'est pas dû à la ménopause. Les crampes, il faut regarder votre bilan sanguin. Il faut vérifier que vous ne soyez pas en hypothyroïdie. Ça peut s'associer à des crampes. Donc là aussi, voir avec votre médecin. Après, peut-être que vous buvez pas assez ou que vous n'avez pas assez d'activité physique. Enfin, à voir.
Donc, le meilleur conseil, c'est d'aller consulter pour faire un petit bilan, tant au niveau du sommeil qu'un bilan sanguin pour vérifier tout ça. Merci beaucoup de cet appel de Libreville. Toute une série de manifestations, on l'a compris, le sommeil, des maux de tête, une certaine inquiétude aussi parce qu'on s'interroge sur ce qui est en train de se passer dans notre corps. Et puis, on l'a tout à l'heure cité brièvement, des troubles liés à la peau, au tissu, avec également, ça peut arriver, des complications au niveau urinaire.
Oui, alors ça, la peau sèche, c'est pas tout le monde. Enfin, les femmes disent, oui, ma peau est devenue sèche, etc. Bon, donc, c'est pas une indication du traitement de ménopause. À ce moment-là, on peut mettre des crèmes grasse, enfin pour hydrater la peau. Après, les troubles urinaires, c'est important d'en parler parce que vraiment, on peut aider les femmes. Alors, les troubles urinaires, ils sont de différents types. Il y a d'abord l'incontinence urinaire d'effort, c'est-à-dire qu'on perd des urines en courant, en toussant, etc. Ou bien ce qu'on appelle les urgenturies, c'est-à-dire ou le syndrome du paillasson, ou le syndrome de la clé, c'est-à-dire qu'on a du mal à retenir ses urines quand on arrive chez soi. Ou on a, c'est ce qu'on appelle aussi l'émiction impérieuse. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut courir pour vider sa vessie, sinon on a des fuites. Ça se traite très bien par la rééducation périnéale et des traitements locaux par œstrogène. Donc c'est vraiment dommage de ne pas en parler avant d'arriver à une chirurgie éventuelle si tout ça a échoué. Mais dans 80% des cas, avec un traitement médical, en plus il y a des traitements médicaux anticholinergiques qui peuvent aider pour les urgenturies, les émictions impérieuses. Donc avec le médecin, là encore, on n'est pas obligé de passer sur le billard, de loin pas. Et puis après, si à la fois la rééducation, les traitements œstrogéniques locaux et éventuellement les anticholinergiques ont échoué, à ce moment-là, une petite intervention avec des bandelettes pourra aider. Il y a également des problèmes d'urétrite ou d'infection urinaire à répétition qui sont liés à la ménopause. Donc là, il faut boire beaucoup et les mêmes précautions, c'est-à-dire traitements œstrogéniques locaux qui vont vraiment aider les femmes. Donc faut pas hésiter à en parler au médecin parce que ça peut être extrêmement gênant dans la vie courante.
Des infections à répétition urinaire, mais sans microbes.
Ça dépend. Il peut y avoir des microbes ou pas. Donc, il faut faire une analyse d'urine. Mais souvent, c'est assez aseptique. Il n'y a pas de germes. Il y a souvent un peu de leucocyturie, c'est-à-dire des globules blancs dans les urines. Donc, il faut là aussi voir avec son médecin et ne pas hésiter à lui en parler. Et donc, des boissons abondantes, enfin, de l'eau. Pas d'alcool, évidemment, des boissons abondantes et un traitement local peuvent tout à fait aider.
Alors, on va maintenant rejoindre à Conakry le professeur Binta Diallo. Bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous êtes gynécologue obstétricienne au CHU de Donka Conakry en Guinée. Vous enseignez aussi j'avais une mauvaise indication, désolée. Vous enseignez aussi la gynécologie obstétrique à l'université de Conakry. Est-ce que beaucoup de femmes viennent vous consulter pour justement des questions sur la ménopause?
Oui, nous avons des femmes qui viennent nous consulter. Mais ce que je vais dire, parce que j'ai suivi l'intervention du professeur qui m'a précédé, qui a abordé tous les contours médicaux et techniques de la ménopause. Dans mon cas particulier, dans notre cas particulier de la Guinée, il y a une note africaine, ou alors une note en tout cas du contexte. C'est l'aspect social. Parce que il y a des rumeurs souvent qui disent que quand la femme est ménopausée, l'homme qui entretient des rapports avec elle va être malade. C'est pas vrai. C'est des fausses rumeurs qui, malheureusement, s'installent.
Et qui véhicule ces idées fausses? Qui véhicule ces préjugés?
Ces préjugés sont diffusés depuis. C'est loin en arrière.
Depuis toujours, ça se dit de famille en famille.
De famille en famille. Et je vais vous dire, quand la femme est ménopausée, plusieurs ethnies se confortent à dire que la femme ne doit plus rentrer dans la chambre conjugale. Évidemment, ça veut dire qu'elle ne doit plus avoir de relation avec son mari.
C'est aussi une justification, entre guillemets, pour se débarrasser des femmes quand elles arrivent à un certain âge et éventuellement peut-être aller vers une épouse plus jeune.
J'y viens justement. Donc dans ces milieux-là, certains hommes sont à l'aise de mettre la femme hors de la chambre conjugale, alors que lui-même, sa puissance est diminuée du fait des années. Mais pour prouver qu'ils n'ont pas de problème, c'est le moment qu'ils choisissent pour épouser des jeunes femmes, parfois même des jeunes filles, ayant l'âge de leur fille. Alors qu'à cette période, vous conviendrez avec moi que la femme ménopausée a besoin de son mari pour la protéger, l'assister, la rassurer.
Ça veut dire, professeur Binta Diallo, qu'en plus des symptômes qui peuvent être parfois complexes à gérer, pour ces femmes, c'est une période terrible de mise au ban avec, on imagine, en plus de graves séquelles psychologiques.
Exactement. Parce que vous savez quand même que 20% des ménopauses ne s'accompagnent d'aucun trouble fonctionnel. 60% s'accompagnent de troubles fonctionnels, mais acceptables. Les autres 20% peuvent s'accompagner de troubles fonctionnels plus sévères. Et ces 10% constituent de véritables complications liées avec l'état justement psychologique de ces femmes. Et ce qui est grave aussi, quand les femmes, parce qu'il y a un manque d'information, quand ces femmes-là ont ces signes-là, un comportement néfaste, à l'apparition des signes, ils vont voir les marabouts. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les marabouts.
Absolument, c'est ce que c'est, bien sûr, sur RFI, oui.
Voilà. Qu'est-ce qu'ils leur donnent, les marabouts? Quel traitement ils utilisent? Qu'est-ce qu'ils leur donnent comme conseil?
Ils font des écritures, ils lavent, ils donnent l'eau, il faut vous laver, il faut faire ceci.
Des rituels,
si
plutôt.
La femme, surtout, une coépouse, elle dit qu'on lui a jeté le sort. Et très souvent, elle pense qu'on leur a jeté un sort. Maintenant, ces femmes-là, elles sont difficiles à gérer quand même. Et parce qu'en fin de compte, quand on les rassure de venir quand même à l'hôpital, elles ont un état psychosomatique. On leur a inculqué des choses qui est difficile de leur enlever. Donc cet aspect social-là se retrouve beaucoup dans notre contexte.
Et professeur Binta Diallo, justement, par rapport à tout cet exposé, tout ce tableau assez sombre, hein, avec beaucoup de préjugés, de fausses croyances, est-ce que vous avez un message en particulier à faire passer?
Oui, vraiment, j'ai un message à faire passer. C'est-à-dire, il faut se convaincre que ces femmes-là, elles ne sont pas malades. Ces femmes ne sont pas malades. Il faut qu'elles se rassurent qu'elles ne sont pas malades. Voilà. Donc, il y a un problème de sensibilisation, un problème d'information. Et là, les médias que vous avez un rôle à jouer.
Eh bien, on espère qu'on...
Comme exemple, au prélude de la journée mondiale de la ménopause, la RTG, la radio-télévision guinéenne, a organisé une émission sur la ménopause que j'ai exposée. Mais après l'exposé, il faut voir le nombre de coups de téléphone et où on comprend parfaitement qu'il y a une insuffisance aussi d'information.
Un vrai problème de désinformation, en l'occurrence, après tout ce qu'on vient d'entendre. Merci beaucoup, professeur Binta Diallo, donc gynécologue à Conakry, en Guinée. Il y a quand même, y compris ici en France, en Europe, encore cette dimension sociale et culturelle, hein, de la ménopause, professeur Anne Gompel, ce sentiment pour certaines d'un âge ingrat, on le dit des fois pour l'adolescence, on peut le dire aussi, de mise au rebut de certaines femmes avec une stigmatisation, y compris dans le vocabulaire. Quand on disait une femme ménopausée, c'est très loin d'être un compliment.
Oui, alors il y a eu des études là-dessus. Je pense pas que ça atteigne le niveau de l'Afrique dont vient de témoigner, le témoignage qu'on vient d'entendre. Je pense qu'en Europe, quand même, les choses sont un tout petit peu plus souples, un petit peu plus soft. C'est souvent les femmes elles-mêmes qui se sentent moins bien parce qu'elles ont l'impression de perdre leur féminité, etc. Maintenant, la ménopause étant un âge moyen de 51 ans en Europe, les femmes sont encore jeunes à cet âge-là. Mais il y a quand même beaucoup de représentations négatives autour de la ménopause, au cours des traitements de la ménopause, qui sont souvent un peu fantasmatiques. Je pense pas que ça atteigne le niveau qu'on vient d'entendre en Afrique.
Avec, par exemple, l'irritabilité, une sorte de stigmatisation.
Oui, alors, c'est pas une idée fausse. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'en période périménopausique, il y a des dépressions, il y a une irritabilité qui augmente, donc il y a des troubles du caractère qui sont liés aux modifications hormonales qui vont s'apaiser probablement avec le temps, mais on entend ça extrêmement souvent en consultation. Je ne suis pas sûre que ça soit fantasmatique, je pense que c'est une réalité.
Oui, mais dans l'acceptation aussi par l'entourage, c'est vraiment aussi un cheminement à faire dans le couple et dans la famille.
Oui, je pense quand même que la représentation des femmes ménopausées en Europe est quand même pas catastrophique partout dans d'autres pays du monde, enfin dans d'autres régions du monde plutôt, pardon. Oui, peut-être, mais bon, après les femmes elles-mêmes ont souvent effectivement une représentation négative parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont vieillir. Ménopause et vieillissement sont associés. Donc les troubles cognitifs, troubles de la mémoire, on n'en a pas parlé encore, mais les troubles cognitifs arrivent à cette période-là et vont s'aggraver progressivement. partiellement liée à la ménopause, c'est-à-dire la carence œstrogénique partiellement liée au vieillissement. Et c'est vrai que l'angoisse de mort fait partie du vieillissement, de la représentation du vieillissement. Donc il y a sûrement tout ça dans la représentation de la ménopause. Après, je pense qu'encore une fois, c'est pas aussi sévère que ce qu'on vient d'entendre.
Et on va entendre un autre témoignage là, c'est celui de Thérèse qui est en ligne du Bénin, de la ville de Parakou. Bonjour Thérèse.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Oui, moi j'ai un souci de menstruer depuis, disons, l'âge d'adolescence, sinon que j'ai commencé tardivement les menstrues, et après l'âge de 16 ans. Et non seulement j'ai connu du retard dans ce domaine, mais j'ai eu un cycle irrégulier. Aujourd'hui, je suis âgée de 45 ans. Alors, en temps, j'avais subi des traitements gynécologiques et les menstrues se sont régularisées. Mais néanmoins, il m'arrive de rester plusieurs mois sans avoir les menstrues. Bon, ce qui m'inquiète beaucoup, bon, est-ce à dire que c'est la ménopause ou bien il s'agit d'un autre mal?
Professeur Anne Gompel, déjà, est-ce que c'est être malade que d'avoir des cycles irréguliers?
C'est pas être malade, mais il peut y avoir des causes, effectivement, des causes endocriniennes qu'on peut traiter. Donc, quel âge vous avez? Pardon, j'ai pas entendu votre âge.
45 ans.
45 ans. Et vous avez des bouffées de chaleur actuellement ou pas?
Non. Bouffées de chaleur, non.
Bon, j'imagine que, comme vous dites, vous avez eu des traitements gynécologiques, vous avez dû avoir des bilans hormonaux dans le passé. Donc, il y a pas que la ménopause pour expliquer des cycles irréguliers. Mais plus on se rapproche de la ménopause, plus les cycles vont d'abord se raccourcir, puis s'allonger. Donc, ça peut être une cause de cycles irréguliers, la préménopause, la période périménopausique. Mais dans votre cas, il semble que ça existait depuis longtemps. Donc, c'est probablement pas la ménopause. Après, c'est à voir de plus près en fonction des symptômes que vous présentez.
Merci beaucoup Thérèse pour votre appel. On va prendre maintenant Patricia en ligne. Bonjour Patricia.
Bonjour à tous, bonjour.
Vous êtes en ligne du Cameroun, de Yaoundé. Alors, vous voulez nous parler de ce qui se passe pour votre mère et non pas pour vous. On vous écoute.
En effet, moi je suis pas ménopausée, c'est ma mère. Donc, c'est principalement les symptômes qui la dérangent, sont les bouffées de chaleur, l'irritabilité, les insomnies. Bon, actuellement, elle ne consulte pas, mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on peut limiter, voire réduire les bouffées de chaleur, comment gérer les insomnies et comment les anticiper? Et mais puis, de façon générale, est-ce qu'on peut avoir des solutions davantage naturelles pour pouvoir parvenir à bout de la ménopause?
Quand vous dites naturel, ça veut dire pas des traitements médicaux, c'est ça?
Exactement, oui. Parce qu'elle est diabétique d'abord, et puis elle a eu un accident vasculaire cérébral, donc davantage...
Oui, donc c'est plus compliqué, effectivement. Maintenir un poids normal, c'est important, mais bon, si elle est diabétique, le diabète peut majorer les bouffées de chaleur. Hein. Donc, il faudrait qu'elle équilibre parfaitement son diabète. Je ne sais pas si c'est le cas. Après, avoir une activité physique et maintenir un poids normal, ce qui n'est pas toujours facile quand on est diabétique, ça peut améliorer les bouffées de chaleur, ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Donc, activité physique... Maigrir si elle est en surcharge pondérale ou obèse pourrait améliorer ses bouffées de chaleur et ses troubles du sommeil.
D'accord, ok. Mais maintenant, est-ce que on peut anticiper les bouffées de chaleur?
Il n'y a pas anticipé les bouffées de chaleur. Non, il n'y a pas de traitement préventif. On a des traitements symptomatiques quand elles arrivent, comme je les ai rappelé tout à l'heure. Après, encore une fois, faire attention à maintenir un poids normal. Faire de l'exercice physique régulier, ne pas manger trop épicé aussi, parce que ça peut aggraver les bouffées de chaleur, sont des méthodes qui permettent de contrôler ou diminuer ces symptômes périménopausiques.
Merci beaucoup Patricia pour votre appel de Yaoundé. On va maintenant rejoindre Brazzaville. En ligne, Mélodie de Grasse, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
J'ai deux questions à vous poser. Concernant la ménopause, à ce mois, j'ai 37 ans, je n'ai pas encore mis au monde, et je me disais avant de mettre au monde, il faut que je termine mes études et que j'ai quelque part mes degrés. La première question est celle-ci. Est-ce qu'une femme qui ne met pas au monde très tôt, qui met au monde très tard peut provoquer une ménopause précoce.
Non, c'est pas ça qui va provoquer la ménopause précoce. La ménopause, l'âge de la ménopause, comme je vous l'ai dit au début de cette émission, est génétiquement déterminé. Donc, alors, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, mais c'est pas votre cas, apparemment, vous n'êtes pas dans la situation d'avoir un enfant, si j'ai bien compris, pas de situation familiale, ça ne décalera pas l'âge à la ménopause ou ça va pas l'avancer. Si en revanche, vous avez des difficultés à avoir des enfants et que vous commencez à avoir des bouffées de chaleur, ça peut être annonciateur d'une ménopause plus précoce. Mais c'est pas le fait d'avoir des enfants tard qui va provoquer une ménopause précoce, non.
Parce que vous avez un projet d'enfant, Mélodie, et que vous vous inquiétez, entre guillemets, de faire cet enfant un petit peu trop tard, c'est bien ça votre question ?
Oui.
Et vous avez des symptômes sinon, bouffée de chaleur, problème de sommeil, des choses qu'on a évoquées tout à l'heure ?
Peut-être problème de sommeil.
Ouais, mais le problème de sommeil, ça peut être lié à d'autres facteurs. Est-ce que vous avez la possibilité de mettre en route une grossesse ou c'est simplement que vous n'êtes pas en couple ?
Oh bon, non, moi je me disais le premier homme que j'aurai dans ma vie, c'est celui qui va faire les enfants avec moi. Mais malheureusement, après j'avais des myomes. On a enlevé, on m'a donné, je crois, une année de repos avant de porter une grossesse.
C'est pas le fait de retarder la première grossesse qui va créer, qui va avancer l'âge à la ménopause. Si c'est ça votre question, on peut répondre non.
Oui,
mais après, n'attendez pas trop longtemps pour mettre en route la grossesse. Si familialement, vous pouvez la mettre en route et médicalement, on vous l'autorise. Parce que plus on attend, plus les chances de fertilité diminuent quand même.
D'accord.
Merci beaucoup pour votre appel, Mélodie, en ligne de Brazzaville. On va conclure cet échange en parlant à nouveau de l'ostéoporose, peut-être des moyens pour prévenir, d'abord pour identifier ce problème qui peut être lié à la ménopause.
Alors d'abord, il y a des facteurs de risque, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de densité osseuse, on ne demande pas de densité osseuse, qui est un moyen d'évaluer la minéralisation osseuse à toutes les femmes dès la ménopause. Ça va dépendre des facteurs de risque. Donc, excusez-moi, s'il y a des fractures familiales de type ostéoporotique, c'est-à-dire qui sont survenues lors d'une chute de sa hauteur, chez la mère ou la grand-mère, à ce moment-là, on aura tendance à demander plutôt une ostéodensitométrie. Si on a pris des traitements par cortisone pendant longtemps, si on est de poids maigre, si on a fumé longtemps, ce sont des facteurs de risque. Donc, dans ces cas-là, on déclenchera une évaluation assez tôt, au moment de la ménopause ou dans les 2 ans qui suivent, c'est le moment où on va perdre le plus rapidement de masse osseuse, puis après la perte va se ralentir. Alors comment le prévenir aussi ? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'alimentation riche en calcium, environ 800 mg à 1 g par jour, apportée par les yaourts. Un yaourt, c'est à peu près 150 mg de calcium, c'est pas beaucoup. Le fromage, on déconseille parce qu'il y a des risques de prise de poids et d'hypercholestérolémie. Les eaux riches en calcium, comme je disais tout à l'heure. Donc essayer d'avoir à peu près 800 mg d'apport quotidien. L'exercice physique avec ce qu'on appelle les sports en charge, c'est-à-dire pas la natation, mais avec le poids du squelette, pour prévenir l'ostéoporose.
Merci beaucoup, professeur Anne Gompel. Merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité d'endocrinologie gynécologique à l'hôpital Cochin à Paris. Mercredi, c'est le jour de notre chronique santé-sport. C'est bien sûr avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Alors, nous avons vu que la ménopause provoque un certain nombre de désagréments. On peut citer la fatigue, la prise de poids, l'irritabilité, dans certains cas des bouffées de chaleur. Alors, est-ce que faire du sport peut aider à lutter contre ces manifestations ?
Eh bien, Caroline, c'est la question que se sont posées des chercheurs américains en réalisant une étude qui a été publié dans la North American Menopause Society. Et là, ils sont intéressés à l'évolution de la qualité de vie de un peu plus de 230 femmes sédentaires pendant au moins 12 mois. Et là, pour les besoins de l'étude, on leur a proposé de faire un programme d'exercice cardio et à la fois fitness pendant 5 mois. Et là, on s'est rendu compte que ces femmes avaient des changements positifs sur leur santé cardiovasculaire, leur souplesse, leur humeur. Leur IMC, vous savez, c'est ce rapport entre le poids et la taille qui a été réduit de manière tout à fait significative. Et puis, un des symptômes qui est particulièrement handicapant lors de la ménopause sont les bouffées de chaleur. Là aussi, on s'est rendu compte que leur fréquence et leur intensité a été diminuée chez ce groupe de femmes. Donc, l'activité a un effet bénéfique. Et puis, plus légèrement, généralement, hein, d'autres études ont montré aussi le bénéfice de l'activité physique. Sur la santé osseuse, on sait que ça diminue le risque d'avoir de l'ostéoporose, ça améliore la qualité de sommeil, parce qu'on l'a dit, ça diminue les bouffées de chaleur qui contribuent à l'insomnie, et puis donc, il faut conclure que le sport est un moyen efficace et naturel de contrer ce bouleversement hormonal gigantesque qui est la baisse d'œstrogène. Et donc, les activités physiques et sportives font partie intégrante du traitement de la ménopause et sont un excellent moyen de prévention de l'ostéoporose.
Alors, quelles recommandations vous pouvez nous donner, docteur Sen, en termes justement d'activité physique?
L'idée, c'est de faire une activité d'endurance, telle de la marche, pendant 30 minutes par jour. Et donc, 15 minutes d'activité physique en charge, c'est-à-dire faire de la course à pied, monter des escaliers. Faire aussi, mais pas seulement, faire aussi des exercices de renforcement musculaire, hein, 3 fois par semaine, dont 2 fois avec un niveau d'intensité élevé. Alors, le renforcement musculaire, ça peut être bien sûr soulever des charges, faire des abdominaux par exemple, faire le travail aussi de la souplesse, ça c'est très très important, 2 à 3 fois par semaine, et puis essentiel, limiter le temps total passé assis ou allongé. Hein, au bout de 2 heures, si on est assis ou allongé, il faut bouger les articulations, se détendre les muscles pour éviter d'avoir cette sédentarité.
Alors, docteur Sen, hein, des conseils à nos auditrices en fonction de leur profil sportif.
Alors, pour les femmes qui sont coureuses à pied ou randonneuses, eh bien, il faut rien changer. Alors, pratique régulière et habituelle, c'est parfait pour cela. Celles qui pratiquent uniquement un sport porté par exemple natation ou cyclisme, il faudra envisager au moins 1 fois par semaine une pratique d'activité avec impact au sol, comme la course à pied, la marche nordique. Pour les femmes sédentaires, la reprise doit se faire très progressivement. Hein. D'abord par des sports portés pendant 3 mois, et puis ensuite envisager des sports à impact, comme on l'a dit, la marche ou la course à pied, et puis seulement envisager des sauts à partir du 6e mois. Mais quoi qu'il en soit, pensez que même une activité physique modérée, mais régulière, de type jardinage ou marche, fait la différence.
Merci docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et notre émission touche à sa fin. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons des accouchements traumatiques. Le numéro pour nous joindre, c'est le 33 1 80 82 75 75.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.